un communiqué publié lundi à Kinshasa, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC plaide pour le respect des droits de l'opposition dans la perspective des élections de 2016. Jean-Michel Dumont fait allusion au déplacement avorté de Vital Kamerhe, président de l'UNC. Signature samedi dernier à Kinshasa du code de bonne conduite de la CENI par certains partis et regroupements politiques pour le cycle électoral 2013-2016. Cependant, une frange de l'opposition a boycotté cette cérémonie. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous aurons autour de cette table Giscard Koussema, il est directeur général des Canal Futur Télévision. Bonsoir Giscard Koussema.
Bonsoir Dumaté, bonsoir à nos auditeurs.
Harold Bellarmé Badibanga, il est secrétaire de rédaction de la radio-télévision du groupe L'Avenir. Bonsoir Harold Bellarmé Badibanga.
Bonsoir confrère, bonsoir chers compatriotes.
Et Hippolyte Mbouilou, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Bas-Congo. Bonsoir Hippolyte Mbouilou.
Bonsoir confrère, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kabi.
Affaire Vital Kamerhe et signature du code de bonne conduite, c'est parmi les informations qui ont défrayé la chronique cette semaine. Pour savoir comment la presse a analysé ces différentes informations, on écoute cette revue de presse que nous propose Alain Hirong.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par l'appel de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC sur le respect des droits de l'opposition. Le journal Le Phare s'interroge en titrant « Démocratie en péril, l'appel de l'Union européenne sera-t-il entendu ?» Toutefois, le quotidien du groupe L'Avenir relève qu'après que les divergences se soient aplanies, Kamerhe peut enfin faire sa caravane de la paix. Cycle électoral 2013-2016, CENI, parti politique, mariage scellé, c'est la une du quotidien La Prospérité. La consoeur rapporte que plus de 100 partis politiques sur 451 enregistrés au ministère de l'Intérieur ont signé samedi dernier le code de bonne conduite ainsi que le protocole d'accord instituant le comité de liaison entre la CENI et les partis politiques en RDC. Pour sa part, le potentiel signe cycle électoral 2014-2016, le train de la CENI démarre sans UDPS, UNC, MLC. Selon le tabloïd, 334 sur 644 partis politiques enregistrés ont signé ce code, hormis l'UDPS, l'UNC et le MLC, trois grands partis politiques de l'opposition. Les retardataires n'ont que 18 jours pour prendre place à bord du train de la CENI qui vient de quitter la gare renchérit le journal. Sous un autre chapitre, Forum des As signe, célébré le 14 février de chaque année, Saint-Valentin, l'État congolais est appelé à prévenir les dérapages. Ce sur quoi embraye l'éditorialiste de La Prospérité qui se demande si c'est un jour de la débauche. En outre, Forum des As renseigne que l'UNESCO encourage l'égalité des sexes entre l'homme et la femme, un appel lancé à l'occasion de la Journée mondiale de la radio célébrée le 13 février. Et nous clôturons cette revue de la presse par une page noire à lire dans le journal Le Potentiel, qui note qu'après Tabouley, King Kester et Menea, le patron du groupe musical Victoria Eleison s'en va. Aussi La Prospérité précise-t-elle que suite à un problème de cœur, King Kester quitte la scène à 57 ans.
Merci Alain Hirong. Un petit commentaire Giscard Koussema. Je rappelle que vous êtes directeur général des Canal Futur Télévision. L'actualité, vous l'avez suivi dans cette revue de presse. C'est aussi le décès depuis hier à Paris de l'artiste et musicien King Kester et Menea qui se faisait souvent appeler Moutoua Zamani.
Oui, je voudrais d'abord rendre hommage à cet artiste hors pair, King Kester et Menea, on les dira jamais assez. Aura été peut-être le plus talentueux de sa génération. Ses chansons sont des véritables chefs-d'œuvre anthologiques qui ont traversé toutes les générations. Et c'est donc à juste titre qu'on peut considérer que King Kester est aujourd'hui le père de la génération Wenge, et donc ces jeunes bon chic, bon genre. C'est King Kester qui en fait a rappelé à tous qu'un chanteur n'est pas un homme ordinaire de par sa façon d'être, sa façon de s'habiller, sa façon de marcher, sa façon de parler. Bref, le style bling bling, c'est King Kester et Menea, et c'est une grande perte. Donc au-delà de sa propre personne, c'est tout un style qui disparaît, c'est toute une génération qui manque aujourd'hui un guide de la trempe de Kinkester et Menea.
Harold de Bellarmé Badibanga, vous êtes secrétaire de rédaction de la radio-télévision du groupe L'Avenir. Kinkester et Menea, un des artistes qui ont marqué des générations depuis la décennie 70 jusqu'à ces jours, à travers notamment ses œuvres, son style vestimentaire et sa verve oratoire.
Effectivement, sa verve oratoire, sa tenue vestimentaire exemplaire, il a inspiré plus d'un hein, qui se bombe de torse aujourd'hui. Et réellement, c'est une perte pour la musique congolaise dans la mesure où Kinkester était l'un de ses leaders sur qui les yeux de beaucoup étaient braqués pour leur donner des orientations de manière mimique et ou verbale. Lorsqu'il s'en va au moment où le public, la nation s'y attendait le moins, c'est une perte, mais c'est aussi un défi pour ceux qui restent. Est-ce qu'il faut que les musiciens se posent la question, les artistes se posent la question, le jour où ils arriveront à mourir, est-ce qu'une pensée pieuse pourra être gardée pour eux par rapport à ce qu'ils ont abattu comme travail, ou ils doivent plonger dans les antivaleurs que nous sommes en train de décrier aujourd'hui?
Hippolyte Mbouilou, journaliste à la radio-télévision nationale RTNC Bakongo, quel est le souvenir que vous gardez de Kinkester et Menea?
Je garde beaucoup de souvenirs par rapport à ce grand artiste musicien, qui était un grand auteur musicien, qui nous a laissé beaucoup de disques. Je me rappelle surtout son apogée vers les années 80 jusqu'aux années 90. Avec la création de l'orchestre Victoria et Leyson, avec la composition de plusieurs chansons dont Zinzi ou encore Okosinga et Fumu. Également, il nous a habitués avec sa verve oratoire, les autres confrères l'ont dit. Également, sa grande influence par rapport à la jeunesse. Il suffisait qu'il puisse citer les noms d'une marque pour que le jour suivant la plupart des jeunes puissent se comporter comme lui. Au Bakongo, nous gardons de lui également ces musiciens qui étaient également sportifs, si on peut encore se rappeler. Avant 1990, Kinkester Menea avait participé à la course d'auto allant pratiquement de Moanda jusqu'à Kinshasa.
Merci, Gisard Koussema. L'autre actualité, c'est la célébration hier de la journée mondiale de la radio.
Oui, c'est le média qui est le plus utilisé, le plus répandu dans notre pays. Si le Congo peut compter un certain nombre de télévisions, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a au moins des centaines de radios à travers le pays. Et ce sont elles parfois qui sont plus près de nos populations. Et lorsqu'on consacre toute une journée, ça devrait nous amener à penser au rôle que devraient jouer ces radios. Vous constatez par exemple qu'aujourd'hui, il y a un drame qui se vit à Lodja grâce au fonctionnement des radios qui se transforment en radio mille collines. Et surtout lorsqu'on sait que ces radios sont tenues par ceux qui sont censés mettre de l'ordre dans ces secteurs. Donc il y a lieu de s'interroger donc sur l'impact de radio au sein de la communauté congolaise, et surtout qu'avec cet espace continent de ce pays, ce sont les radios qui sont plus près de population, et ce sont ces radios qui accompagnent la population dans ce qu'elles font. Je pense que nous devions, au niveau de rédaction, nous devrions faire un travail très fouillé pour juger de l'impact de radio au niveau de nos communautés.
Harold de Bellarmé Badibanga, un mot par rapport à la célébration de la journée mondiale de la radio, c'était hier.
C'est une interpellation par rapport aux autorités publiques compétentes qui doivent comprendre que on ne peut pas facilement se promener avec sa petite radio à la main, on ne peut pas aussi facilement être sur les NTIC surfer à tout moment, mais pour parler de nos milieux ruraux, même un cultivateur peut avoir sa petite radio quand il est en train de labourer les champs et il écoute la radio. Alors par rapport à cette prise de conscience, je me dis qu'est-ce que nous-mêmes en tant que professionnels de médias faisons de la la radio. Il y a un fléau d'ailleurs qui a élu domicile dans beaucoup de maisons de presse. Il suffit qu'on ait une nièce qui sache parler un peu français pour qu'elle soit alignée comme journaliste ou animatrice. Mais cela ne fait que détériorer la qualité de la radio, parce que pour moi, au-delà de la distraction, quand on parle de la radio, on voit l'information. Alors, c'est un défi pour le pouvoir public compétent, un défi pour nos journalistes, pour que nous puissions de plus en plus revaloriser cette radio qui, du point de vue de la communication, s'avère hyper importante.
Et donc, il faut davantage réglementer ce secteur.
Effectivement.
Hippolyte Mouilou, un mot par rapport à la célébration de la journée mondiale de la radio.
Voilà, c'est une journée très importante, surtout pour le média, puisque ça nous permet tous de prendre conscience un peu de ce que la radio représente. Hein. La radio, c'est pratiquement les moyens les plus sûrs, capables de permettre à la population, même lointaine, de suivre les événements, ce qui se passe au niveau interne, tout comme au niveau international. Mais malheureusement, on a tendance à donner plus de moyens à la télévision, qui pratiquement n'est pas très suivie au niveau de la population. Pourtant, avec la radio, on est capable de suivre les informations partout où on peut trouver. Rien qu'un appareil cellulaire peut déjà vous permettre de suivre la radio. Donc, il faut un peu plus de prise de conscience au niveau des autorités et au niveau de responsables de différentes radios, également de la population, pour voir dans quelle mesure améliorer et
trouver
les différentes grilles de programme.
Notre premier thème de ce soir, dans un communiqué publié lundi à Kinshasa, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC plaide pour le respect des droits de l'opposition dans la perspective des élections de 2016. Jean-Michel Dumont fait allusion au déplacement avorté de Vital Kamerhe, président de l'UNC. Des diplomates européens est interrogé par Innocent Olenga.
Notre préoccupation, c'est que au moment où le processus électoral s'engage, au moment où la CENI commence son travail, où les rencontres avec les partis politiques ont eu lieu, où un code de conduite a été signé, ce processus électoral s'engage dans de bonnes conditions. Il y a une compétition politique, cette compétition est saine, en démocratie c'est normal. Il y a des partis politiques, ces partis politiques doivent jouer le rôle prévu par la Constitution, mais il faut que ce combat politique se fasse dans des conditions qui respectent les règles, c'est-à-dire ce qui est prévu par la Constitution, que les droits de l'opposition, mais aussi ceux de la majorité, soient remplis, qu'il y ait un espace politique ouvert, que les partis politiques, leurs candidats, puissent se déplacer pour aller faire campagne, pour que l'indépendance et l'impartialité de la justice soient respectées. Il ne faut pas que la justice puisse être instrumentalisée. Nous avons donc tenu à rappeler un certain nombre de principes auxquels nous tenons beaucoup et auxquels, je suis sûr, le gouvernement congolais et les Congolais aussi beaucoup.
Le gouvernement congolais n'accepte pas cette déclaration. Son porte-parole appelle l'Union européenne à s'interdire tout amalgame. Lambert Mende rappelle que la RDC n'est pas en campagne en ce moment et que le président de l'UNC n'a été empêché de voyager que pour des raisons de sécurité. Il est questionné par Donat Madimba.
Mais il n'appartient pas à l'Union européenne d'encourager les gens à violer les règles de la sécurité de la navigation aérienne, à aller en campagne électorale en dehors de la période prévue par la loi. Mais sinon, les gens sont libres de circuler. Pourquoi des personnes qui étaient libres depuis toujours de circuler, d'aller où ils veulent, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur, ne deviendraient plus libres? Pour quelles raisons? Il est évident qu'on a voulu faire feu de tout bois, inventer des incidents pour amener justement les médias et des gens à s'imaginer que ces gens ont une importance qu'ils n'ont pas. Nous ne sommes pas en campagne électorale et nous n'allons pas laisser quelqu'un violer les principes de la sécurité de la navigation aérienne. Le jour où un acteur politique en Europe se permettra de forcer les barrières de sécurité d'un aéroport pour prendre place à bord d'un aéronef sans passer par les formalités et procédures, notamment les procédures de sécurité, et que la police de n'importe quel pays européen l'expulse ou le débarque d'un avion, nous, en RDC, nous ne dirons rien.
Sachez que les divergences ont été aplanies entre les membres de l'Union pour la Nation Congolaise et les ministres de l'Intérieur à propos du voyage qu'il doit effectuer à l'est du pays. Le président s'est parti, Vital Kamerhe. C'est après deux jours de discussion. Reste à l'UNC de fixer la date du voyage. Annonce faite mercredi à Kinshasa par Claudel André Lubaya, chef de la délégation, au sortir de l'audience avec Richard Mouyège. C'était en présence des administrateurs de l'ANER et de la DGM. Harold de Bellarmé Badibanga, je rappelle que vous êtes directeur des rédactions de la radio-télévision du groupe L'Avenir. Quelle analyse vous faites de cette situation?
J'analyse qu'il s'agit de l'agitation, de l'amalgame, de la confusion, tout simplement, parce que vous vous rendez compte que l'Union européenne, pour commencer par cette déclaration trop musculée pour rien de l'Union européenne, mon cher ami, vous vous rendrez compte que l'Union européenne est en train de forcer l'ouverture d'une porte ouverte. Je suis clair, scientifiquement, on parle du général au particulier, on parle du particulier au général, mais...
Indiction et déduction.
L'Union européenne va, en tirant la conclusion sur un seul cas, qui n'en est rien pour parler de l'opposition congolaise qui n'est pas autorisée à fonctionner, qui n'est pas autorisée à faire preuve de ses capacités ou de se prononcer, comme si les Moka, les consorts qui parlent à travers les médias aujourd'hui sont inquiétés du point de vue des opinions.
Mais le cas Vital Kamerhe, c'est quand même flagrant.
Je suis bien content, parce que vous-même, en parlant, vous commencez par bémoliser, vous dites c'est quand même flagrant. Donc ce n'est pas flagrant, rien du tout. Je crois que la République démocratique du Congo n'est pas un champ de patates douces. La République démocratique du Congo n'est pas un champ de canne à sucre dans lequel n'importe qui peut faire n'importe quoi. Le ministre de la Communication est clair, pour des raisons bien sécuritaires. Qui est au-dessus de la mêlée? Je crois que même le chef de l'État, Joseph Kabila, lorsqu'il voyage, il passe par des formalités. C'est une obligation pour tout citoyen congolais respectueux républicain de faire tout ce qu'il peut faire compte tenu des dispositifs sécuritaires et des obligations sécuritaires de son pays.
Bellarmé Badibanga, vous savez, à première vue, l'attitude du pouvoir est étonnante, parce que lorsque Kamerhe envisage d'effectuer son voyage dans l'est de la RDC, qu'est-ce qui peut gêner le pouvoir?
Non. Est-ce que le pouvoir a dit qu'il est gêné? Le gouvernement de la République a dit qu'il est gêné? Je ne crois pas. Je dis tout simplement que les préalables, c'est qu'il ne s'agit pas ici du voyage de Kamerhe à l'est de la RDC, mais il s'agit plutôt de l'attitude par lui affichée dans un aéroport. Or, lorsque vous suivez le ministre de la Communication, Lambert Mende-Walanga, pour ne pas le citer, il est clair, il dit qu'il s'agit de la violation flagrante par le concerné des dispositions sécuritaires du moins établi à l'aéroport, et qu'il se doit lui-même, en tant qu'homme d'État, un politicien pas le moindre dans ce pays, de respecter.
Il y avait à ce sujet plusieurs informations. Hein. Les unes faisaient état, n'est-ce pas, des dettes qui n'ont pas été payées par Vital Kamerhe à l'entreprise Malou Aviation. Les autres faisaient état, n'est-ce pas, des formalités qui n'ont pas été remplies par Vital Kamerhe. Comment vous comprenez toutes ces informations, n'est-ce pas, qui émanent des mêmes camps, mais des informations différentes, pour justifier un fait?
Je m'en tiens beaucoup plus aux faits, étant donné que nous disons toujours que devant les faits, on s'incline. Les faits sont tels que nous avons suivi les sources officielles, dire qu'il s'agit des dispositions sécuritaires que le concerné aurait violé ou avait violé, à en croire Lambert Mende Omalanga. Donc, cette attitude pour un républicain, pour un homme d'État de sa trempe, n'est pas à encourager. Il ne faut pas que l'on se mette en tête que si on lui a demandé de ne pas voyager parce qu'il a violé des dispositions sécuritaires, c'est parce qu'il s'agit du voyage à l'Est, comme si Kamerhe serait à son premier voyage à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous devons plutôt comprendre que dans ce pays, lorsqu'on veut faire entendre sa voix, on crée soi-même des problèmes pour attirer l'attention. C'est ainsi que l'Union européenne a commis l'erreur de déduire des choses qu'elle-même ne maîtrise pas, étant donné que la démocratie se vit assez normalement au Congo. On ne peut pas être loin de la capitale et tirer des conclusions qui ne se font pas comprendre par rapport à la réalité. Et là, nous prenons même la population en témoin. Elle sait comprendre que l'opposition fonctionne comme il se doit dans ce pays.
Merci. Mais certains analystes estiment que le pouvoir est en train de façon Berlusconi, un opposant sérieux, surtout par rapport aux élections de 2016.
Non, mais c'est une analyse dans la mesure où Camer est un acteur politique, il a des ambitions. Mais lorsqu'il faut parler de 2016, c'est mettre la charrue devant le bœuf, parce que on n'est pas encore en campagne électorale comme l'a fait croire l'Union européenne. Et encore que si on pose la question à Vital Camer et Loa Kanyingine aujourd'hui, mon cher ami, il contredira l'Union européenne, il vous dira qu'il n'allait pas en campagne électorale. Donc évoquer des questions du genre campagne électorale, ceci, tel, générer tel, c'est de la masturbation intellectuelle qui n'a rien à voir avec la réalité.
Jusqu'à Koussema, je rappelle que vous êtes directeur général des canaux Futur Télévision. La majorité estime que Camer cherche à exploiter les contextes du moment pour attirer l'attention sur lui et l'objectif c'est de faire monter sa cote de popularité.
Écoutez Guy Maté, je voudrais rappeler ici à tout le monde d'abord que je suis journaliste professionnel et c'est en cette qualité que j'ai été invité ici. Merci donc de me donner l'occasion de rétablir la vérité par des faits. Le journaliste c'est celui qui s'attache aux faits.
Et quelle est cette vérité?
Nous allons parler de ces faits. Je crois que donnez-nous l'occasion de réagir d'abord par rapport à cette déclaration. Les faits sont les suivants. Ok. Puisque vous voulez qu'on change de procédure, qu'on parle d'abord de M. Camer, les faits sont sacrés et le journaliste, c'est celui qui s'attache aux faits. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de faits qui démontrent qu'il y a un acharnement contre M. Vital Camer. Premier fait sacré. Nous sommes le 7. Le vendredi 7 février courant, M. Camer, qui a déjà écrit à toutes les autorités pour organiser sa caravane, reçoit une visite nocturne à 2h du matin d'un haut responsable de la police bien connu pour ses méthodes, à qui il a intimé l'ordre de déguerpir d'une maison sans tenir compte des clauses des contrats. Et l'homme qui est en face de lui dit clairement « Je n'ai pas besoin de lire ni de savoir les contours de ton contrat ». Exécution illico presto. Nous sommes à 2h du matin pour quelqu'un qui voyage. Je crois que même un pauvre citoyen qui a un problème de bail, je crois qu'il y a une procédure. Premier
l'autre
fait. L'autre fait, nous sommes le vendredi, il est à l'aéroport d'Indolo. Monsieur Camer qui a affrété un avion par ses propres frais, qui s'est acquitté de tout le devoir, entre au moment où il doit prendre le vol. Il y a une interdiction. Et vous le savez.
On dit qu'il devait de l'argent à Malou Aviation.
Justement, lorsqu'il doit de l'argent à Malou Aviation, je ne crois pas que cet avion-là ait été ramassé dans une ville de Kinshasa. Camer le pousse jusque sur la piste, il met des gens pour s'envoler et que c'est un haut responsable de sécurité qui le dise. Mais là où il y a la confusion, c'est lorsque le ministre Mende, lui, ne parle pas des dettes, mais plutôt il dit Malou Aviation aurait des dettes avec la RVA. Et l'autorité de l'aviation civile. Mais je suis heureux parce que je suis à Radio Capi. C'est Radio Capi qui a interrogé les deux institutions qui ont nié. Et je vous informe parce que je suis journaliste et c'est à vérifier Andolo. Malou Aviation est une compagnie qui vole. Cet avion-là a volé la veille. Et a volé, nous sommes vendredi, allez-y Andolo avec des reporters. Vous verrez que cet avion qui aurait des problèmes avec l'aviation civile et RVA continue à voler. Vous allez dire que tout ça, c'est aussi une mise en scène. Troisième fait, puisqu'on parle des faits. Il est à l'aéroport de Ndjili. Cette fois, Vital Camer paye 40 billets d'avion. Il a quand même été, s'il ne représente rien pour Mende et sa famille politique, mais il a quand même été ministre honoraire. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il est président d'un parti politique. Monsieur Camer a des services à lui qui font ce travail de protocole à l'aéroport. Il a acheté un billet. Il a été le tout premier à être enregistré. Et un journaliste qui ne fait pas du travail protocolaire doit vérifier. Il a été jusqu'à l'aéroport d'Indjil. Il s'est acquitté. C'est au pied de l'avion. Vous n'allez pas me dire que Camer a pris un hélicoptère pour se trouver au pied de l'avion. Et en plus, lorsque aujourd'hui vous dites que finalement Camer est autorisé à aller. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur qui dit. Donc, ça suppose que il avait été interdit et c'est pourquoi aujourd'hui. Donc, je crois que par respect à nos autorités et pour ne pas rendre ridicule nos autorités, je crois que certains confrères ne devraient pas tomber dans les pièges de débats politiciens pour voir les faits, tout ce qui se présente. Je n'ai donné que ces faits.
Giscard,
je ne parle pas de sa télévision.
Voilà.
Je ne parle pas de tous ces autres actes d'acharnement qui sont des faits. Donc, voilà un peu, je crois qu'on doit partir du respect. Pour revenir maintenant à la position de l'Union européenne, je voudrais dire ici que si aujourd'hui la RDC est encore un État, c'est grâce à l'apport de cette communauté internationale. Sinon, le Congo n'existerait pas. Et lorsqu'on doit s'adresser à des ambassadeurs, je crois qu'il faut avoir un langage courtois. Parce que j'insiste, ce n'est ni à mon confrère, ni à M. Mende de dicter les méthodes de travail des chancelleries. Donc, aujourd'hui, le plus important, c'est quel est le message à lire à travers cette déclaration. Les ambassadeurs sont considérés comme les premiers partenaires de la RDC. Ce sont eux les bailleurs des fonds. Ils ont même dit qu'ils suivaient de près les processus électoraux. Donc, s'ils donnent des faits, et le cas camerounais n'est qu'un fait parmi tant d'autres, je crois que le mieux à faire, c'est d'analyser les textes. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent sans avoir lu ces textes.
On vous a compris. Ce qui générait le pouvoir, ce n'est pas, en fait, dans les communiqués de l'Union européenne, ce qui générait le pouvoir, ce n'est pas le fait que l'Union européenne va établir les liens entre cet acharnement, n'est-ce pas, et les élections de 2016. Est-ce que ce n'est pas ces liens-là qui
gênent? Le communiqué est clair. Ils ont dit le dernier cas en date est l'interdiction à M. Vital Kamerhe. Nous parlons français. Et donc, ça signifie que eux qui suivent de près, ils l'ont dit. Il y a un certain nombre de faits, dont celui de Vital Kamerhe. Ça, c'est clair. Et puis, deuxièmement, mais je l'ai dit ici, les ambassadeurs, lorsqu'on les invite, c'est pas sur le plan protocolaire. Ils suivent de près le processus. Ce sont eux les bailleurs des fonds. Au mois de décembre, ils s'étaient réunis et vous savez quelle était leur déclaration, qu'ils allaient revoir, bien avant les cas camerounais, qu'ils allaient revoir leur apport par rapport au processus au vu de l'avancée de la situation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne ne voudrait plus tomber sur des problèmes de leadership qu'on a eu avec des élections non ou peu crédibles.
Voilà, tout ce qu'on dit au sujet des camerounais pour justifier le fait qu'il a été empêché de voyager, c'est des simples prétextes. Vous ne pensez pas que la véritable raison, c'est les messages que Kamerhe est en train d'apporter aux populations de l'Est, parce que selon le pouvoir, Kamerhe a promis à ces populations, n'est-ce pas, de lui poser la question de savoir comment, en quelques jours, les FARDC sont parvenus à défaire les M23 pour une guerre qui a pris plusieurs mois.
C'est un acteur politique. Il est important que Vital Kamerhe s'interroge. Je ne sais pas aujourd'hui si on a changé de méthode ou Kamerhe doit faire un discours, aller le déposer d'abord auprès du ministre pour qu'il soit censuré. Je crois que c'est un acteur politique. Vous suivez la politique dans les vieilles démocraties. Un acteur politique est appelé à se prononcer sur n'importe quel fait de société. Alors aujourd'hui qu'on dise merci parce que vous l'avez corrigé, il a bel et bien été empêché. Le ministre l'a reconnu et qu'aujourd'hui, ils l'ont dit, il est maintenant autorisé à partir. Voilà.
Hippolyte Mouilou, vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise et RTMC Bakongo. Kamerhe veut voyager, on lui fait signifier qu'il ne doit pas partir en avançant plusieurs raisons, notamment la sécurité, les dettes non payées. Quelle analyse vous faites de tout cela?
Oui, pratiquement ce dossier nous fait assister à un ping-pong, fruit de l'agitation entre l'opposant Vital Kamerhe et le service du gouvernement. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi on l'empêche de se rendre à l'Est. Mais aussi, il faut qu'on retienne que Vital Kamerhe est un grand leader politique aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il a été candidat à président de la République en 2011 et populaire sur l'ensemble du territoire national pour sa sécurité. Je pense qu'il était quand même important que le ministère de l'Intérieur puisse connaître ne fût-ce que son itinéraire, surtout s'il devait faire la caravane de la paix. Je suis content que les deux parties aient accepté la voie de la raison, c'est-à-dire le respect de la Constitution en ses articles 17 et 26 qui garantit la liberté individuelle et la liberté de manifestation. Mais la même Constitution recommande également que les organisateurs puissent informer par écrit l'autorité administrative compétente.
Oui, Hippolyte Mbouilou, ceux qui pensent que dans cette affaire, c'est Kamerhe qui sort ragaillardi, réconforté, est-ce qu'ils ont raison?
Bon, Ça dépend de quel côté on se situe. Hein. En tant qu'opposant politique, lorsque vous empêchez un opposant politique de vaquer à ses occupations et que lui réussit à obtenir gain de cause, ça risque de lui donner raison. On l'a vu pendant la Deuxième République, on a pratiquement rendu mythe plusieurs opposants politiques pour ne pas les citer ici, hein, parce que chaque fois qu'on les empêchait de manifester ou encore on essayait de les brimer, ça leur rendait beaucoup plus fort après. Je pense que dans tout ça, le gouvernement doit aussi revoir sa politique, hein, pour éviter que son image de marque puisse être remise en cause.
Harold Bellarmé Badibanga, dans cette affaire, Kamer sort regardé, réconforté.
Non, ça c'est de l'utopie, ce sont des idées que l'on se fait, mon cher ami. Je suis de ceux qui pensent que mon Congo, 53 ans après l'indépendance, ne peut pas vivre au babysitting. J'ai entendu ici les exaltations de l'Union Européenne. Lorsque l'Union Européenne a tort, moi en tant que journaliste congolais, j'ai pas le droit de le dire, je dois accepter étant donné que ça vient de l'homme blanc, on ne mourra pas dans ce piège-là, on ne n'aura pas sur ce terrain-là. Lorsque l'Union européenne dit des choses qui ne collent pas à la réalité, que moi je vis à Kinshasa et dans mon pays, je décris, je dis que c'est faux. Ici, il ne faut pas que l'on aille au-delà de ce qui est fait. Ici, on ne parle pas du voyage de Kamere à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai précisé ici, heureusement qu'on ne m'a pas rencontré par rapport à ça. Je dis que ce n'est pas la première fois que Kamere va à l'est de la RDC. Il y va, il rentre. Mais aujourd'hui, parce qu'il s'est posé un problème d'ordre sécuritaire et que lui, en tant qu'homme d'État, il est censé être un exemple à suivre par rapport aux petits citoyens.
Quels sont ces problèmes sécuritaires?
Mais c'est clair, on n'en donne pas un autre. Même l'autre camp, le camp de Kamere, ne donne pas un autre. On dit, entre les lignes, en évitant de creuser, on dit un problème de dette. On nie pas qu'il avait un problème de dette avec une compagnie, mais on bémolise. On parle de cette affaire de la maison comme si c'est un fait qui fait qu'on l'empêche, mais papa. L'insolvabilité de quelqu'un et le déguerpissement de la maison, est-ce que ça a à voir à faire avec un voyage que quelqu'un devait effectuer
Merci.
À l'aide de la RDC.
Merci.
Je crois savoir que des problèmes comme ceux-ci doivent être abordés sans état d'âme, mais plutôt avec l'âme d'État pour rétablir la vérité. Aujourd'hui, c'est Kamere, et demain, ça pourra être quelqu'un d'autre au-delà de toute
Merci
la loi qui doit
Bouadibanga.
Être respectée.
Giscard Koussema, vous avez parlé de l'acharnement à l'endroit de Kamere. À votre avis, pourquoi cet acharnement est-il devenu plus menaçant que tout le monde?
C'est ce que donne à croire en tout cas tous ces déboires qu'on lui fait vivre. Je voudrais dire ici, je n'ai pas un seul instant dans mes propos dit que Vital Kamere avait des problèmes avec Malou Aviation. Je crois que mon confrère devrait se délier et aller jusqu'à Malou Aviation vérifier qu'il n'a jamais eu des dettes. Je voudrais dire ici, ce n'est pas le problème de seul Vital Kamere, c'est la démocratie qui est en péril en fait. C'est tous les processus électoral est en péril. Donc ces actes démontrent un peu de l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent et de comment ils voudraient traiter
Merci.
L'opposition et les acteurs politiques avant 2016. Donc heureusement que la population a compris et sait où se trouve le mensonge. Ce n'est pas pour ceux qui crient aux voleurs alors qu'eux-mêmes sont des véritables voleurs.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Signature samedi dernier à Kinshasa du code de bonne conduite et de la CENI par certains partis et groupements politiques pour le cycle électoral 2013-2016. Cependant, une frange de l'opposition a boycotté cette cérémonie. Les partis et les groupements politiques ont procédé samedi dernier à la signature du code de bonne conduite et du protocole d'accord instituant le comité de liaison entre la CENI et les partis politiques pour le cycle électoral 2013-2016. La cérémonie qui s'est déroulée au Palais du Peuple a connu la participation de nombreux responsables politiques et leurs mandataires, ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en RDC, chefs de confession religieuse et autorités congolaises, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malou Malou, revient ici sur l'importance de ces deux documents dans ses propos recueillis par Richard Julien Kamunga.
Nos différents codes de bonne conduite peuvent être considérés comme un outil qui contribue à la liberté et à la régularité. Au choix réel et crédible, au processus représentatif, à la transparence et a l'obligation de rendre compte à l'intégrité électorale, à l'émergence et à la consolidation d'une culture politique démocratique. S'ils sont réellement appliqués, c'est donc un ensemble de dispositifs d'autorégulation, de principes destinés aux acteurs congolais de la compétition électorale déterminés à agir en personne raisonnable et de bonne foi.
Hippolyte Mbouilou, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise Bakongo. Je rappelle qu'on n'a pas assez de temps, je vais vous demander d'être concis dans vos réponses. Comment vous analysez cette démarche, n'est-ce pas, initiée par la CENI, la signature du code de bonne conduite, mais qui a été boycottée par une frange de l'opposition politique au Congo?
Voilà, je pense qu'à notre niveau, nous pensons que ce code de bonne conduite est le bienvenu, hein, parce qu'il permet de baliser le chemin, ça permet à chacun de partenaires de savoir quelle position prendre, quel comportement adopter pendant tout le processus électoral. Mais ce qui nous fait très mal, c'est cette frange de l'opposition qui n'a pas voulu signer ce code de bonne conduite. Mais aussi, il y a beaucoup de gens ne sont pas étonnés de voir l'UDPS, par exemple, ne pas signer ses codes de bonne conduite, quelles que soient les raisons officielles qui sont évoquées. Comment voulez-vous la même UDPS qui, jusqu'à ce jour, n'accepte toujours pas les institutions qui sont là depuis les élections de 2011, puisse accepter une disposition proposée par la CENI, installée par les mêmes institutions, ça pose problème. Sinon, l'UDPS risquerait de pratiquement de se contredire. Donc, je pense que l'UDPS est restée constante par rapport à sa position d'antan. Mais cela me fait craindre aussi d'autres contestations électorales à l'avenir. Nous risquons de nous retrouver pratiquement des contestations en contestation. On a contesté le résultat des élections en 2011. Je crains il y a encore d'autres contestations lors des élections
Merci.
Locales, également à l'élection présidentielle de 2007.
Harold de Bellarmé Badibanga, le code de bonne conduite, pourquoi sa signature peut susciter de telles réactions? Vous avez suivi Hippolyte Mbouilou qui, en évoquant l'UDPS, il dit que l'UDPS est restée cohérente avec elle-même et elle ne sait pas, elle n'a pas reconnu ceux qui sont là à la CENI et donc elle ne voit pas comment est-ce qu'elle peut s'impliquer dans une démarche qui est initiée par la même CENI. Et c'est la même raison qui a été évoquée par l'opposition au Parlement. Et ils ont dit que, dès le départ, ils se sont opposés à la désignation des Maluma à la tête de la CENI. Ils ne voient pas comment est-ce qu'ils vont aller s'impliquer dans une démarche qui est initiée par la CENI, dirigée par les mêmes Abbé Malumalu.
Et ça me fait rire. Et tu sais pourquoi, mon cher ami? C'est parce que c'est la même CENI qui va organiser les élections de 2016. Et donc, je rappelle ici que l'UDPS n'avait pas participé aux élections de 2006. Elles ont eu lieu. Il y a eu un président élu qui a dirigé la République pendant les 5 ans. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut nous en tenir aux caprices des gens. Cette République, je l'ai toujours dit, nous appartient tous. Nous y avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Nul n'est indispensable. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas là aujourd'hui, quelqu'un d'autre peut faire ce que vous pouvez. Donc, le code de bonne conduite initié par le président de la CENI, M. Albert Brunner Malumalu, veut tout simplement dire quoi? Que la CENI n'organise pas seule les élections ou elle ne les organise pas pour elle. Elle les organise pour et avec les politiciens. Et pour que le jeu soit clair, pour qu'il y ait de folie-garde de part et d'autre, il doit quand même y avoir une certaine dose de loi que les uns et les autres doivent respecter. Même les fourmis, lorsqu'elles se promènent, elles vont en ligne. Pourquoi nous, les humains, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait de l'ordre? Alors, si l'on estime que cette République doit se transformer en une vendetta, on peut se réveiller un matin, faire n'importe quoi pour troubler le processus électoral. Voilà pourquoi on refuse de signer le code, parce que qui c'est ça mauvais, c'est mouche. Je crois savoir qu'avec ou sans les partis politiques qui ont refusé de signer le code et qui et vraisemblablement pourront ne pas participer au processus électoral, les élections auront lieu
avec ceux qui accepteront d'y aller, étant donné que nous avons une litanie de partis politiques.
Merci.
Ceux qui voudront vont participer aux élections. Le pays va continuer avec ou sans certaines personnes.
Merci. Gisard Koussema, comment vous comprenez l'attitude de cette opposition qui refuse de signer le code de bonne conduite, tout simplement parce que l'initiative vient de la CENI, qui est dirigée par l'abbé Apollinaire Malou Malou, et qui va même, Harold Badibanga l'a rappelé, il va organiser des élections.
Je crois qu'il n'est pas bon ici d'attribuer des propos que ces partis politiques n'ont pas tenus. J'insiste, je suis journaliste, je suis allé vers eux. Si l'UDPS a évoqué des questions d'impérium, mais les autres partis politiques ont donné des raisons qui me paraissent rationnelles. Première raison, ils disent ici que ces documents ont été conçus et rédigés par la CENI, alors que les partis politiques ne sont pas une instance de la CENI. Donc ce sont des partenaires et il était important qu'ils participent à la rédaction de ces papiers. Deuxième raison évoquée, la neutralité même de la CENI est remise en cause lorsque la CENI donne des alternatives ici en proposant une révision constitutionnelle. Donc ça signifie que la CENI est en train d'obliger les gens à aller vers une révision constitutionnelle. Troisième raison évoquée notamment par l'UNC ici, c'est qu'il n'y a pas d'abord un consensus sur les cycles électoraux. Lorsque Malou Malou lui seul propose de commencer par
lorsque
des
la
élections,
la CENI,
bien sûr, avec son président, commence par laisser les bœufs courir derrière la charrue, il était normal de terminer pour lui les cycles électoraux commencés depuis 2006, avant de commencer, plutôt que d'inverser les choses, il faut commencer par les élections locales et puis provinciales. Il n'est pas donc bon que des administrateurs des territoires qui ont commencé depuis 2006 soient là pour organiser des élections. Et puis, quatrième raison évoquée par ces partis politiques, c'est qu'aujourd'hui, l'un des principes fondamentaux est dicté dans ces codes, c'est entre autres la libre circulation et la liberté des presses, mais avec la liberté d'expression, mais avec tout ce qui s'est fait maintenant.
Et, donc, et en quoi, selon vous, en quoi le fait de signer ou de refuser de signer ces codes de bonne conduite modifierait les contenus de la feuille de route présentée par la CENI à l'Assemblée nationale?
Non, mais ça donne à croire que la CENI est venue avec des textes pour imposer. Il ne peut pas changer des règles du jeu. Si aujourd'hui, il faut qu'on dise, si Malou Malou est arrivé là-bas, ce n'est pas la suite d'une élection. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui avait un mandat de 5 ans, il faut qu'on s'interroge pourquoi Ngoï Moulunda est parti une année après avoir exécuté une mission et que Malou Malou arrive pour changer des règles du jeu. Non, il n'a pas ce pouvoir-là de changer des règles du jeu. On a considéré que la CENI était une instance politique et non pas un arbitre.
Par rapport aux raisons évoquées par l'opposition, nous nous sommes basés sur les facs opposition de Lisanga Bomanga, qui ont dit qu'ils sont restés cohérents. À partir du moment où ils ont récusé Malou Malou dès le départ, ils ne peuvent pas aujourd'hui s'impliquer dans la démarche
je
par Malou Malou.
Si les FAC dirigés par
Fayoulou disent que eux n'ont pas confiance à Malou Malou. Voilà, c'est la raison pour laquelle
ils n'ont
pas signé.
Donc chaque parti politique de l'opposition a ses bonnes raisons. Je l'ai dit, si l'UDPS joue présente l'Imperium comme raison, les FAC, les MLC, l'UDPS. Donc je voudrais dire ici, l'important n'est pas que le train quitte la gare et il part, comme on les lit ici tous les jours dans les journaux. Mais le plus important, c'est de savoir où va ce train et s'il va dans la bonne direction. Donc, il ne faut pas réduire ici à la simple personne de Malou Malou. Il faut lire les raisons des différents partis politiques de l'opposition. Vous verrez qu'il y a de bonnes raisons pour eux, qu'il y ait d'abord un consensus avant de signer. Rappelez-vous des élections de 2006 et de 2011. Voyez dans les archives, vous verrez qui n'ont pas signé les codes de bonne conduite.
Merci Hippolyte Mbouilou. Que faut-il faire, à votre avis, pour essayer d'harmoniser les points de vue des uns et des autres?
Moi, je pense que la solution passe par des concertations où on doit dialoguer entre partenaires politiques pour voir dans quelle mesure satisfaire les uns tout comme les autres. Mais aussi, il faudrait que nous puissions souligner que l'opposition ne doit pas être distraite face aux enjeux du moment, sinon on risque de donner raison au confrère Badibanga qui a parlé tout à l'heure là, parce que c'est pratiquement le même comportement qui revient lorsqu'on veut organiser des élections pratiquement dans notre pays ou encore dans notre pays sub-Afrique subsaharienne. C'est maintenant qu'il faut suivre et participer à la gestion. la chose publique en mobilisant la population au lieu d'attendre toujours la fin pour ensuite contester.
Merci Hippolyte Mbouilou. Harold de Bellarmé Bandibana, vous avez suivi Hippolyte Mbouilou qui lui propose un dialogue pour essayer d'harmoniser les divergences des vues.
Mon cher ami, le dialogue est un agent pacificateur des conflits interhumains. On peut l'initier, mais personne ne viendra. De ceux qui ont claqué la porte de Maluma et son groupe, personne ne viendra dans la mesure où, avec le déficit criant de l'élégance démocratique et politique, ils disent, nous n'avions pas confiance à Maluma. Et pourtant, ils se disent opposants démocrates. Dans la démocratie, c'est la voix de la majorité qui l'importe. Maluma, c'était par consensus entre opposition et majorité qu'il est là. On vous dit, on ne peut pas venir parce que nous n'avons pas aimé. En quoi on est démocrate, quoi on est politique.
Jusqu'à Koussema, vos conclusions.
Les dialogues, il est irréversible. Je pense qu'il est temps pour nos acteurs politiques de recadrer des choses, de voir les dangers qui nous guettent et de juger les enjeux du moment.
Merci, c'est la fin de cette émission. Willem Lungamba était à la technique et Alain Irung à la réalisation. Sous la supervision de Julien Nyamouni, devant ses micros, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.